C'est une fois de plus avec beaucoup de plaisir que je me trouve parmi vous depuis de très nombreuses années, avant à Montureux et maintenant ici. Et en plus, ça fait plaisir de nous retrouver un peu plus que la dernière fois. Je crois que nous étions une petite douzaine la dernière fois, si vous voulez ça. Voilà. Et content de voir que l'Assemblée continue à vivre. Et je suis l'ami de cette Assemblée depuis longtemps avec beaucoup d'affection pour vous tous ici. Ce que je voudrais partager avec vous ce matin est un texte très très ancien, c'est de l'Ancien Testament. Ça fait partie de toutes sortes de lois que nous avons du mal en général à saisir, à en comprendre le sens, souvent parce que nous passons dessus un petit peu vite. Et parmi toutes ces lois qui concernaient le peuple de Dieu, donc, de l'époque, il reste beaucoup de choses qui nous concernent, je crois, encore aujourd'hui. Et là où je m'arrêterai, c'est dans le chapitre 30 de l'Exode. Exode chapitre 30, juste à quelques versets. Là, on est dans un ensemble de lois, comme je vous dis, mais c'est un peu particulier, ce passage-là. Il fait allusion à quelque chose qui est aussi demandé par Dieu, mais dont on a peu d'exemples d'application ensuite dans la suite de la vie du peuple d'Israël. Donc, Exode 30, versets 11 à 16. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu feras le relevé des Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa personne lors du dénombrement. De la sorte, lors de ce dénombrement, il n'y aura pas de plaie parmi eux. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-sicle, selon le sicle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-sicle sera prélevé pour l'Éternel. Quiconque sera compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, donnera l'offrande prélevée pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-sicle pour l'offrande prélevée pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des Israélites l'argent de la rançon, et tu l'emploieras au travail de la tente de la rencontre. Ce sera pour les fils d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour la rançon de leur personne. » Il s'agit d'un dénombrement, donc d'un recensement du peuple, un processus banal. Normalement, ça relève de l'INSEE chez nous, et on en tire des statistiques pouvant orienter les choix économiques, les choix d'équipement à réaliser. Ici, ce processus est associé à des termes surprenants et même choquants, puisqu'au verset 12, il est question de payer une rançon. Chacun d'eux donnera une rançon pour sa personne lors du recensement. On est loin de la simple comptabilité de chiffres. Le terme hébreu traduit ici par dénombrer, recenser, est en réalité très différent de ce que l'on comprend en français. Il n'a pas le sens froidement mathématique d'un comptage de population. La traduction la plus proche serait « visiter ». Plutôt que dire « lorsque tu recenseras »,« lorsque tu visiteras ». Visiter chaque personne, une à une, évidemment pour le recenser, mais avec en plus un but d'intervention active dans la vie de cette personne. Pas seulement la visiter en vue de fabriquer une liste. Dans la plupart des cas, dans l'Ancien Testament, on trouve ce terme de « visiter » associé avec « visiter pour juger ». Ou bien visiter pour bénir et sauver. La Bible évoque à de nombreuses reprises Dieu qui recense son peuple, Dieu qui dénombre son peuple, Dieu qui visite son peuple. C'est le même terme. Pas pour le compter, mais pour intervenir dans son parcours, dans sa vie. Et c'est justement un moment solennel quand Dieu visite son peuple. C'est toujours un moment solennel. Moment de bénédiction ou moment de jugement. ça doit vous rappeler pas mal d'exemples. L'Ancien Testament, Dieu visite son peuple, ou pour le bien, ou pour des épisodes difficiles. Chaque fois, il s'agit pour Dieu de rappeler à ce peuple qui lui appartient, qu'il a une identité particulière, qu'il n'est pas n'importe qui dans ce monde, que cette identité ne se galvaude pas, qu'elle a du prix. Le peuple hébreu n'est pas devenu le peuple de Dieu par hasard, ou par sa volonté, ou par ses capacités. Il y a une histoire là derrière, une histoire dont le Seigneur est l'auteur. Et c'est cela que Dieu veut signifier à ce peuple fragile qui sort de 430 ans d'esclavage en Égypte. Il veut lui signifier qu'il n'est pas n'importe qui et qu'il tient à ce qu'il ait une attitude, un fonctionnement qui l'honore. Si nous reprenons le verset 12, donc, lorsque tu feras le relevé des Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa personne. On se dit, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ça? L'occasion de mettre un impôt supplémentaire, ça serait assez dans l'actualité. Ça permettrait de payer une administration. Non, il ne s'agit pas d'un impôt. C'est bien le terme de rançon. Chacun versera une rançon lorsqu'il sera recensé. Et au verset 16, il est précisé l'objet de cette rançon. Tu recevras des Israélites l'argent de la rançon et tu l'emploieras au travail de la tente de la rencontre, c'est-à-dire pour l'œuvre de Dieu. Et il est ajouté, ce sera pour les fils d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour la rançon de leur personne. Là, on commence à approcher un peu plus du sens, un souvenir. Mais là encore, le langage actuel nous cause des soucis, parce que pour nous, souvenir, c'est se souvenir plus ou moins d'événements passés. Vous savez, je ne me souviens plus très bien. Non, la Bible nous parle en général d'essayer, non pas d'essayer de raviver de vieux souvenirs plus ou moins flous, non. Quand elle parle de souvenirs, c'est que des signes qui sont un témoignage permanent, placé devant nous. Le versement de cette rançon, c'est l'affirmation que chaque personne a besoin d'être rachetée pour faire partie du peuple de Dieu. C'est une rançon. En la versant, chacun réaffirme cette réalité, valable pour lui personnellement, à ce moment précis de sa vie. Mais pourquoi verser une rançon? Il y a rançon s'il y a prise d'otage, évidemment. Et c'est justement ce que Dieu tient que son peuple garde en mémoire. Il y a rançon parce qu'il y a prise d'otage. Il était otage des Égyptiens et il y a fallu payer une rançon pour le libérer. Et la rançon payée a été terrible à cette époque. Ça a été la mort de milliers et de milliers de personnes, désignées simplement parce qu'elles étaient les premiers-nés des familles. Les premiers-nés, sans compter aussi la mort de milliers d'animaux qui étaient aussi les premiers-nés. Si le peuple hébreu est libre maintenant, c'est au prix d'une quantité de sang versé. Il ne faut pas oublier que c'est à ce prix qu'il était sorti de son esclavage. Et ça que l'Éternel tient à rappeler. Le texte d'Exode 30 se situe dans une série de lois destinées à régir la vie, une fois sortie du pays d'Égypte, avec en fond permanent, vous le savez, des sacrifices pour toutes sortes de choses, pour couvrir le péché globalement, car ce peuple, à peine libéré, est sans arrêt tenté de retourner vers d'autres esclavages et abandonner le Dieu libérateur. Et le paiement de cette rançon à chaque recensement est un moyen de rappeler que la libération est toujours à réactiver. Que s'il y a eu libération, il y a sans cesse cette tentation de retourner vers l'esclavage. D'ailleurs, ce qui suit le plus proche, une page plus loin, on tourne une page, qu'est-ce qu'on trouve? Fabrication d'un veau en or pour l'adorer. Vous voyez qu'il y a toujours besoin de se remettre les choses en mémoire. les Hébreux avaient offert leurs bijoux, leur or, pour se mettre sous la dépendance d'un dieu inutile, d'un dieu qui rappelait d'ailleurs les dieux égyptiens. Mais cette rançon intrigue par ses particularités. En effet, elle a trois particularités qui sont totalement déstabilisantes quand on les voit. On ne comprend pas. Verset 15, « Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-sicle. » Voilà le montant de la rançon. Stricte égalité. Tout le monde paie la même rançon, quelle que soit l'importance de la personne. Il y a de quoi déstabiliser tous les preneurs d'otages. Un preneur d'otage qui se respecte ne choisit pas n'importe quel otage. Il n'ira pas prendre un pauvre dans le Sahel. Si c'est le fils d'un PDG de multinationale, c'est nettement mieux, ça rapporte plus. Leur valeur n'a rien de comparable. Tous les protagonistes d'un enlèvement négocieront la libération en fonction de la valeur estimée de leur otage. Mais voilà, le Dieu créateur n'a pas la même optique que les hommes. Toutes ces créatures pèsent le même poids à ses yeux. Jésus, en insistant fortement d'ailleurs sur cette réalité, sur cette vérité, réaffirme sans cesse que Dieu ne privilégie personne. Il ne privilégie pas les uns au détriment des autres. Il ne fait pas exception de personne, comme on dit. Il n'a ni préféré ni citoyen de seconde zone. Il veut que tous les hommes soient sauvés, pas certains plus que d'autres. Le rachat du riche ne vaut pas plus que le rachat du pauvre. Le rachat du pauvre ne vaut pas moins que le rachat du riche. Ça, c'est une première caractéristique de cette rançon étonnante, où c'est le même prix, quelle que soit la personne à racheter. Nous serions tentés de dire, mais c'est pas juste, le riche a les moyens de payer plus. Certainement, certainement. Mais Dieu a une deuxième leçon à faire passer, nous le voyons au verset 13. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Ça ne vous éclaire pas beaucoup, mis à part que chapitre 38, à peine un peu plus loin, premier recensement qui a lieu, et puis là ça nous expliquait ce que c'est que ce montant. Le cycle, 11 grammes d'argent, le cycle du sanctuaire, 11 grammes d'argent, le demi-cycle donc 5,5 grammes d'argent. Voilà le montant de la rançon qui est demandée. Quand on sait que les recensements ont été rares dans la vie du peuple d'Israël, c'était très rare les recensements, et qu'à chaque recensement, il n'y avait pas plus qu'un dans une génération, il fallait payer 5 grammes d'argent pour être racheté, on se dit que c'est un peu ridicule quand même. Ça ressemble pas à grand-chose. Une rançon, 5 grammes d'argent pour toute une vie d'otage, à payer une fois dans sa vie, c'est à la portée du pauvre. C'est pour ça qu'il a dit « le pauvre versera son demi-sicle ». Pour le riche, non seulement c'est à sa portée, mais c'est même humiliant. Ma vie, 5 grammes d'argent. Et dans les deux cas, c'est sans rapport évidemment avec la rançon réelle à payer pour retrouver la présence de Dieu, libre de cette chaîne, libre de nos chaînes, oui, et pour faire partie de son peuple. La rançon à payer est tellement immense qu'elle n'est pas plus à la portée du riche que du pauvre. C'est cela que veut rappeler l'Éternel. Donnez 5 grammes d'argent, ça suffira. Ça suffira parce que vous ne pouvez pas payer la somme. Si un acompte très coûteux a été payé pour sortir le peuple hébreu d'Égypte, le prix à payer pour être libéré du péché et accéder à la sainteté de Dieu est encore plus grand, hors de portée. La rançon pour retrouver la liberté, personne n'est capable de la payer, pas même le riche. Alors 5 grammes d'argent suffiront. Une troisième remarque, rançon identique pour chacun, montant ridicule, mais encore plus étrange, elle n'est pas versée au preneur d'otage. Le preneur d'otage, d'ailleurs, nous pouvons le chercher, nous ne savons pas très bien où il est. Il y a rançon à payer, et on ne voit pas très bien où est le preneur d'otage. Tu recevras des Israélites, verset 16, l'argent de la rançon, Et tu l'emploieras au travail de la tente de la rencontre. C'est-à-dire pour le tabernacle, pour le lieu où avait lieu le culte. Le bénéficiaire de l'opération, c'est l'otage libéré, bien sûr. Mais voilà que le racheteur, c'est celui qui récupère finalement la rançon. Et ce n'est pas le rançonneur. Ce n'est pas le dénouement habituel des prises d'otages, un dénouement incroyable. Et d'ailleurs, ce rançonneur, comme je disais, reste dans l'ombre tout au long de ce récit. Pas clairement identifié. C'est pas vraiment l'Égypte, puisque même l'Égypte a donné de l'argent aux Israélites pour sortir, son argent et son or. Donc tout fonctionne à l'envers dans cette histoire. C'est le Nouveau Testament qui nous renseigne plus précisément sur cet aspect. On nous fait, en effet, le Nouveau Testament redit ces choses en y apportant un éclairage essentiel. L'apôtre Pierre, s'adressant cette fois non plus au peuple hébreu libéré, mais au peuple de Dieu qu'il qualifie d'étrangers, disséminés dans tout le Proche-Orient, au début de son épître, il dit, 1 Pierre 1, verset 18, « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix ? Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or, non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » Le montant de la rançon est précisé là. Ce n'est pas 5 grammes d'argent. Non, une rançon terrible. Le sang du Messie de Dieu, Jésus, a été versé pour rassembler un peuple disséminé de toute race, de tout peuple, de toute nation. Rançon payée par Dieu, lui-même, pour que les hommes et les femmes qui l'accepteraient soient libérés de leurs péchés, pour qu'ils puissent entrer purifiés dans la présence de Dieu. Il est étonnant de lire ce que Pierre identifie au péché. Vous avez été libérés de votre péché, libérés de la manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Voilà de quoi ils ont été libérés. On se dit, mais c'est pas possible, le péché c'est plein de mauvaises choses, etc. Libérés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, de votre culture, de votre pays, de votre environnement, manière de vivre, oui, marquée par le péché. Et c'est elle qui vous tient en laisse, tellement vous avez été habitués dans cet environnement. C'est ça que Pierre dit à ses correspondants. Vous étiez tellement habitués à faire comme les autres que vous en êtes devenus otages de cette manière de vivre qui ne conduit à rien qu'au néant. Et l'apôtre Paul va plus loin encore dans cette présentation du salut offert par Dieu en écrivant aux chrétiens de Colosse, nous trouvons ça dans l'épître aux Colossiens chapitre 2 verset 13, « Vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. » Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. L'apôtre Paul rappelle notre carte d'identité d'origine. Esclave, otage, prisonnier du poids d'un héritage de mort, sali par le péché, séparé de la sainteté de Dieu, tout y est. Voilà notre carte d'identité d'origine. Et au verset 14, cette carte d'identité a été effacée. Il a annulé, effacée, détruite, clouée à la croix, m'a-t-il dit, pour m'en attribuer une nouvelle. Elle est restée clouée sur la croix, ma carte d'identité. La nouvelle carte, libre, purifiée, accepté comme enfant de Dieu. La vieille carte d'identité a été clouée sur la croix où a été offerte ma rançon. La rançon a été offerte, la cité Christ. Jésus, mis à mort comme prix de ma libération et en même temps clouée ma vieille carte d'identité. C'est Dieu lui-même qui a offert cette rançon terrible. celui qui l'aimait en échange de ma libération. Du jamais vu dans une prise d'otage, c'est pas comme ça que les choses se passent. Et le dénouement nous est dit de cette prise d'otage où la rançon a été versée, ma carte d'identité changée. Le dénouement, c'est que ces autorités, ces pouvoirs ont été désarmés, donnés publiquement en spectacle, traînés dans le cortège triomphal de Dieu après sa victoire à la croix. Les principautés, les pouvoirs ont été dépouillés de leurs otages. Voilà identifié les preneurs d'otages cette fois. Satan et les siens dépouillés de leur pouvoir sur ceux qui acceptent que la rançon ait été payée pour eux. Jésus, le Christ de Dieu, mis à mort sur la croix. La rançon a été payée, on est libre, alors il n'y a plus aucune raison de rester avec son preneur d'otages. Mais il y a plus formidable encore, la rançon a été payée et intégralement récupérée par Dieu. Satan croyait avoir gagné à ce moment sur la croix. Le bien-aimé de Dieu, crucifié, mort, il gardait en plus ses otages et la rançon. Il gardait tout. Il avait gagné sur toute la ligne. Mais le troisième jour, vous le savez, Dieu, Jésus est ressuscité et a regagné sa place auprès du Père. Comme pour la rançon symbolique du livre de l'Exode, celle-ci est récupérée par le Père. Ce n'est jamais l'ennemi qui la garde. Et avec elle, les otages libérés, moi, vous. C'est la conclusion de Paul. Oui, sa victoire sur la croix, ils ont été donnés en spectacle, dépouillés de toute autorité, et je suis libre, totalement libre. Nous sommes le ravisseur à tout perdu. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Nous sommes des otages libérés, parce que la rançon a été versée, libérés gratuitement. Et chacun par la même rançon. Pas plus pour le riche, pas plus pour le pauvre, pas plus pour le grand pécheur, comme nous aimerions qualifier, pour le petit pécheur. Non, nous sommes tous pécheurs, et la rançon est unique. Pas 5 grammes d'argent cette fois. Mais Jésus, notre Sauveur, mort, est ressuscité. Et Paul dit encore aux chrétiens de Galatie, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Alors, il continue, demeurez donc ferme. Ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Oui, ne nous laissons pas réenfermer par ce que la société, ce fameux héritage que nous ont laissé, que nous laisse toute la société, ne nous laissons pas réenfermer par ce que cette société cherche à nous imposer comme façon de penser ou manière de vivre. Et la pression est forte en ce moment, vous le savez. On parle de morale laïque maintenant pour enfin se débarrasser de cette morale héritée des judéo-chrétiens et tout cela. Résistons, nous sommes libres. Là, ce serait dommage de se laisser réenfermer dans une soi-disant morale qui serait supérieure. Dieu a tout payé pour que nous soyons libres, totalement libres. Ne retombons pas dans l'esclavage comme les Israélites l'ont fait tant de fois. Je vous propose de prier pour... Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Oui, tu nous as libérés de nos chaînes. Oui, tu as pour nous un amour incompréhensible. Pourquoi as-tu été jusqu'à offrir cette rançon terrible de ton fils sur la croix ? Nous ne le saurons jamais. Cela nous dépasse trop notre entendement au raisonnement tellement humain. Mais tu as voulu nous libérer ainsi, pour que nous ayons la vie avec toi, la vie éternelle, une vie de liberté. Alors Seigneur, garde-nous de ne pas nous laisser réentraîner dans l'esclavage après avoir connu une telle libération, une libération à un tel prix. Seigneur, apprends-nous à rester les yeux fixés sur toi, cherchant ta volonté, cherchant à te glorifier dans nos vies personnelles et dans notre vie d'Église. Seigneur, que ta volonté soit faite et que ta grâce nous accompagne.
Amen.